Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 11h et midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric. Nous parlerons aujourd'hui d'André Aubry, ou plus exactement de son travail là-bas dans les Chiapas mexicains, sa façon d'avoir osé écrire ce que les Indiens n'avaient fait que dire pendant 4 siècles.
Maurice, nous avons laissé Chamula, on est juste quelques kilomètres à côté.
On est à la fois à San Cristobal de las Casas et à la fois à Magdalenas, qui est un minuscule village qui est perdu vraiment dans les montagnes de la Sierra Madre, toujours dans les Chiapas mexicains. Et en fait, c'est la rencontre avec André Aubry, que j'évoquais tout à l'heure, qui m'a fait prendre conscience de ce que l'INAREMAC, qui est un institut local, qui est très français d'ailleurs, a été capable de faire pour les Indiens de Tzotzil, ces Indiens, ces paysans du Mexique, qui eux n'avaient jamais pu exprimer par des mots, par l'écrit, ce qu'ils avaient vécu. C'était aucun témoignage, si ce n'est l'oral. Et 400 ans de colonie, c'est en même temps le fait d'avoir supprimé l'écriture à ces Indiens qu'il avait auparavant. Et quand on voit pour la première fois un indigène qui visite Palenque, vous savez, ces ruines qui se trouvent en contrebas dans les terres chaudes, ben, il y a quelque chose d'assez fabuleux. Moi, je me rappelle de mon premier croisement, j'en ai eu plusieurs avec des Indiens Lacandon qui venaient de la jungle, avec des Tseltal, avec des Tzotzil. Mais une fois, j'ai rencontré un homme et une femme qui venaient de la région de Chamula, qu'on a déjà évoqué si souvent. Eh bien, on est à 300 mètres d'altitude, il fait à peu près 40 degrés, une chaleur humide, une chaleur vraiment tropicale, on est dans la jungle. Et vous avez ce chamoula qui arrive là en plein midi avec son sarap, vous savez le poncho indien qui est en laine blanche, vous vous rappelez des moutons de chamoula. Avec sa ceinture qui serre le tout, il a vraiment les gouttes qui perlent du front avec ses cheveux très 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 drus, très très asiatiques finalement, et ce teint bistré comme cela. Il a cette face un peu lunaire. Ils ont souvent ce côté indien très rond, et vous le voyez vraiment suer au pied des ruines. Et il regarde ça avec de grands yeux, et vous lui dites, mais enfin, tu veux pas te mettre un peu à l'aise? Il est midi, on peut enlever cette partie. La chamara s'enlève à partir d'une certaine heure quand on vit sur les hauts plateaux. Et il vous répond, non, quand je travaille moi dans les plantations, j'ai beaucoup plus chaud que cela. Et là, je suis venu en costume, je suis venu avec tout ce qui fait mon apparat d'Indien pour voir mes ancêtres. Et vous le voyez tout à coup monter la pyramide avec une dextérité qui n'a absolument rien à voir avec l'américaine de service qui est à quatre pattes et qui se retourne avec un vertige impossible. Et quand il arrive en haut, moi je me rappelle de cet arrêt incroyable devant cette inscription. Il y a plus de 260 hiéroglyphes sur une seule sculpture. Cet Indien qui s'arrête, sa femme le suit parce que la femme suit toujours l'homme, et tous les deux sont là avec leur petit bambin qui est à la fois dans le dos, le deuxième qu'on tient par la main, et il s'arrête devant ces pages d'écriture, et il regarde ces symboles et il les lise mentalement. On a l'impression tout à coup qu'ils retrouvent dans ces signes la tête de leurs ancêtres, parce que les hiéroglyphes mayas sont souvent faits à partir d'un visage. Ils comptent les points, ils comptent les traits. Et puis, vous vous glissez à côté parce que vous savez déjà lire les hiéroglyphes, on peut de plus en plus les lire aujourd'hui, et vous lui racontez l'histoire de Pakal Bouclier, son ancêtre, qui était mort ici en 683, qui était vraiment quelqu'un qui régnait sur le monde de l'époque, sur des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres aux alentours, et qui commandait des dizaines de milliers d'hommes, et qui avait le savoir, le pouvoir, et surtout cette écriture. Et là, l'Indien se retourne et il vous dit, moi j'aimerais bien apprendre à écrire, mais je ne voudrais plus écrire dans le langage qui te correspond, je ne voudrais plus parler en espagnol, je voudrais pouvoir le faire en tzotzil, dans ma langue. Et ce que l'INAREMAC a fait sur place, c'est un peu cela. C'est la première fois qu'on a relancé, avec un magnétophone, comme on le fait maintenant, l'idée de prendre témoignage, et puis ensuite d'écrire en tzotzil, avec l'alphabet que nous utilisons, avec des accents, avec des tonalités incroyables qui font que la phonétique permet de retranscrire cette écriture difficile, cette langue extrêmement difficile et très imagée, et de refaire, en fait, revivre des témoignages de ces gens-là. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on aille à Magdalena pour rencontrer une femme qui le déclare elle-même. Elle est très volubile, je la connais, je l'ai vue travailler, je l'ai vue vivre, je l'ai vue s'exprimer surtout. Et il y a eu des séances d'enregistrement absolument incroyables où d'un seul coup, vous savez, quand on prend du coton et qu'on le prépare soi-même, c'est-à-dire que on prend le double brin et puis on crée le fil. On a la petite calebasse, cette petite pièce de bois qui vous permet de créer la fusaïole, et puis vous tournez, et puis la chose se met en route, et vous voyez ces mouvements de haut et de bas avec la main de cette femme, et vous avez l'impression que le fil ne s'arrête plus, que tout à coup la pelote est faite pour être pelote et qu'elle va devenir immense, jusqu'à ce que le coton qui est dans l'autre main arrête de glisser sur la fusaïole et d'être pris. Et là, vous vous rendez compte que cette femme fonctionne comme cela. Elle est en train, devant un micro, de faire défiler sa vie, de laisser dévier le temps, et puis de raconter comment elle est capable, elle, de tisser tous les jours, comme elle l'a fait pratiquement tous les jours de sa vie depuis son enfance, et en même temps, de le faire en s'exprimant avec des mots très simples. Alors, c'est difficile à refaire ou à revivre. Je ne suis pas une femme indienne, je ne suis pas cette fameuse femme de Magdalena que je vais évoquer maintenant, mais j'aimerais essayer de reprendre dans une certaine simplicité ce langage pour laisser ce fil se faire à travers l'idée de la Vierge qui l'a inspirée lorsqu'elle dormait, puis ensuite comment elle a rencontré Marie, comment elle a vécu dans sa famille, comment elle a créé une famille bizarrement sans enfants, volontairement, et son mari l'a accepté très bien, et comment elle attend la mort, ou plus exactement comme elle la refuse tout en communiquant avec ses ancêtres. Je ne sais pas si on aura une heure pour le faire, mais essayez de refaire le trajet d'une vie, d'une femme, à partir de cet enregistrement, à partir de cette façon d'avoir su exprimer, et ensuite, grâce à l'équipe d'André Aubry, de retraduire cela directement par des mots en tzotzil, et pourquoi pas en français, puisque c'est également édité en langue française. Ça vous tente?
Ah oui, bien sûr, ça me tente.
Alors, je suis obligé de remettre les choses en place parce que l'endroit où nous allons aujourd'hui est un endroit assez incroyable. Magdalena, c'est vraiment le village oublié des Hauts Plateaux. Et j'ai retrouvé une description de l'époque. Une description de ceux qui, pour la première fois, sont montés vers cette Sierra Madre. Alors, il y a eu un naufrage. Ça s'est passé donc au XVIe siècle. On voit très bien la caravelle. On est dans la baie de Terminos. Et là, ce sont les premiers moines dominicains. Il y a eu les franciscains d'abord, ensuite les dominicains donc qui les sont espagnols. Arrivés au Mexique. Ce sont les espagnols, bien sûr. Souvent, les dominicains sont vraiment espagnols. Les franciscains pouvaient venir de Flandre, pouvaient venir de tous les pays d'Europe. C'est les seuls qui avaient le courage de traverser comme ça avec ces caravelles et d'imaginer qu'il y avait des âmes, qu'il y avait la possibilité de recréer ce millénarium, cette fin des temps qui attendait l'Apocalypse. Et ces moines, faisant naufrage, se sont retrouvés avec l'équipe de Bartolomé de las Casas, qui est vraiment le premier défenseur des Indiens et qui est celui qui s'est placé à San Cristobal, qui s'appelle San Cristobal de las Casas grâce à lui. Il était le défenseur et ils sont allés à pied depuis la baie de Terminos jusqu'à ce qui s'appelait à l'époque Ciudad Real, donc la San Cristobal d'aujourd'hui. Et en arrivant sur le site de Magdalenas, il y a un de ses frères, c'est Thomas de la Torre, qui nous raconte que finalement, il a écrit sur son calepin que la montée était absolument épouvantable et qu'ils avaient dû gravir la fin du chemin 4 à 4 et qu'en voyant son journal, il disait surtout que ces sentiers les plus infâmes qu'on connaissait en Castille, et mon Dieu, c'est la Castille, à cette fin du Moyen-Âge, était quelque chose d'accidenté, c'était vraiment un plancher de réfectoire si on prenait la comparaison avec ces chemins des Chiapas.
Don't know what the world is gonna do, or if we can get off now. The road that we're on, there's hate in my brother's eye, but as the time goes by, I get harder. They say we learn by our mistakes and then we carry on. Sometimes I'm not sure. Sometimes I'm not sure. There's no brakes on this car as it rolls down the hill. My muscles are straining now, my foot through the floor. Perhaps that's why, perhaps that's why I see the dolphin, it makes me cry. As I look in your eyes, as I look in your eyes, time goes by, makes me cry. Whoa. Don't wanna go to school anymore today, 'cause history, she keeps on and on repeating herself. She can't forgive, she just licks all of her wounds. Sore is the day, and sore is the night. Perhaps that's why, perhaps that's why
I see the dolphin makes me cry. As I look in your eyes, I look in your eyes. As the time goes by, it makes me cry. Whoa. When I was a boy, when I was growing up, I remember life was so simple, life was so sweet. And now that I'm older, I'm wiser as a fool. I keep on breaking those golden, golden rules. And perhaps that's why, perhaps that's why I see the dolphin and it makes me cry. As I look in your eyes, as I look in your eyes, as the time goes by, makes me cry. Perhaps that's why I see the dolphin and it makes me cry. As I look in your eyes, as I look in your eyes, as the time goes by. Ever touch the loneliness of a broken man? Did you see a starving child die? Do we really do these things to one another? Do you see why dolphins make?
Comment s'appelait cette fameuse femme ?
Eh bien, c'est...
Maria ?
Oui, elle s'appelle Maria, mais en fait, si on le prononce à la tzotzil, elle s'appelait Meavrilia. Et ça se traduirait par Maria Alvarez Jiménez, qui est son nom complet. Et c'est une femme qui est très âgée, et elle raconte son histoire de façon curieuse. Elle a commencé son interview en disant simplement, on ignore complètement d'où est venue la Vierge, parce qu'elle est obsédée par la Vierge de Magdalenas.
C'est-à-dire qu'elle a été tisseuse toute sa vie.
Oui, vous allez le voir, c'est justement la Vierge qui va lui apprendre. Alors, elle dit que certains dans le village disent qu'elle est arrivée il y a 3000 ans et que dans 3000 ans, bien, tout va disparaître, que le soleil ne s'allumera plus et que tout va s'obscurcir. Elle parle aussi du cataclysme à la façon maya, de la fin du monde, que le monde se remplira d'eau et que tout le monde dans le village va mourir. Donc, dans 3000 ans, bien sûr. Mais elle ne sait absolument pas d'où vient la Vierge de Magdalenas. Elle dit qu'elle est peut-être sortie d'une grotte ou alors éventuellement du ciel, ou qu'en tout cas, elle était accompagnée par deux personnes. Il y avait deux compagnons qui étaient à ses côtés. C'est San Juan Chamula, vous le connaissez, on en a déjà parlé. C'est le Saint Jean-Baptiste qui est à San Juan Chamula, le village qui est en fait assez proche de Magdalenas. Et puis, il y a son frère aîné, qui est donc ce Saint Jean. Mais il y a aussi Sainte Marthe, Santa Marta, qui est sa sœur cadette. Alors, elle dit que c'est pour cela que les gens qui vivent à Santa Marta portent exactement le même vêtement que eux à Magdalenas, parce que la chemise brodée de Santa Marta, elle ressemble terriblement au huipil de Santa Magdalena. Et c'est parce qu'ils sont du même village, et d'un même père et d'une même mère qu'il y a cette ressemblance étrange entre les deux hameaux des hauts plateaux. Et elle dit aussi qu'il y a une fleur qui s'appelle Santa Magdalena, et que ses pétales, ses grandes pétales, elles ressemblent terriblement à la broderie du huipil de la sainte, parce que la sainte porte naturellement le même vêtement que tous les gens et toutes les femmes du village, et que ces petites pétales, eh bien, sont comme celles qu'on fait sur les serviettes. Vous savez, lorsque les jeunes filles commencent à apprendre la technique, non pas seulement de la broderie, mais du brocart, hein, qui se fait directement sur le métier à tisser, et cette fleur est très jolie, comme le huipil que portait la Vierge quand le monde a été créé. Donc là, tout est déjà complètement dit par une sorte de mythe complet qui fait que ce qu'elle porte sur la peau a 3000 ans, pratiquement, et que la Vierge a elle-même 3000 ans, qu'elle remonte au début du monde. Elle sait qu'elle est maya, donc elle va chercher des origines maya et non pas chrétiennes. Et puis, elle raconte aussi des choses très étranges quand elle dit que la Vierge voulait une maison. Alors, la Vierge demande une maison. Alors, vous avez, la scène est superbe parce que les hommes vont se réunir, ils vont construire là quelque chose dans le village parce que c'est comme
c'est
ça.
C'est-à-dire qu'à travers elle, la Vierge s'exprime.
Elle raconte comment la Vierge a demandé sa maison, donc une église, si vous voulez. Alors, les hommes vont construire l'église, bien sûr, c'était leur travail. Les femmes vont construire la maison du peuple. Et elle imagine le début des temps, le début du village. Elle fait l'origine de son village et elle dit que les murs étaient en ciment, qu'on avait mis de la chaux, qu'on avait mis du jaune d'œuf, un mélange assez curieux, et qu'on va transporter des pierres de la rivière jusque dans le hameau. Mais on dit aussi qu'il y en a certains qui ont porté ces pierres sur leur dos, mais il y en a d'autres qui disent qu'elles sont venues toutes seules, les pierres. Et qu'elles sont arrivées par miracle, et que les hommes étaient capables à cette époque de parler au bois, et qui disaient, ben, levez-vous, parce qu'il faut venir construire l'église, il faut venir construire la maison du peuple. Alors avec un bruit incroyable, vous voyez les poutres qui commencent à bouger toutes seules,
les pierres.
Et tout avance comme ça, le travail va permettre rapidement de terminer ces deux édifices, et finalement, c'est ainsi que son papa et sa maman lui racontaient l'histoire. C'est un peu comme si elle était enfant et qu'elle écoutait l'histoire. Et elle dit surtout qu'avant, les hommes étaient très fort, hein, qu'il y avait une sorte de puissance. On parle toujours des géants, hein, des gens puissants d'avant. Ça remonte dans tous les grands mythes à l'origine, pratiquement. Et aujourd'hui, on n'est pas très vigoureux parce qu'en fait, on le sait bien, on sait simplement qu'on n'est plus aussi fort aujourd'hui, simplement qu'en écoutant ce qu'on dit. Mais enfin, ça, c'est des histoires qu'on raconte. Elle a toujours une façon de conclure ces bouts de texte comme ça au magnétophone qui sont assez incroyables. Alors, elle dit que ses souvenirs remontent carrément jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça, elle se rappelle très bien qu'elle comprenait déjà quelque chose et qu'elle savait très bien que juste avant, on est incapable parce qu'on dit tout juste papa et maman. Il ne faut pas oublier qu'elle n'a pas eu d'enfant, hein, mais vous allez voir qu'elle finit sa vie en adoptant un petit gosse, mais que son père était mort. Et son père, bien sûr, il est mort au moment où elle raconte l'histoire. Il s'appelait Victorio et puis que sa mère s'appelait déjà Magdalena. Et elle disait que... À cet âge-là, elle jouait uniquement, elle faisait des petites poupées avec des tortillas. Vous savez, les tortillas sont ces galettes de maïs. Hein. Mmh. Et puis elle prenait des petites feuilles, elle s'amusait. Alors ça, on voit tout à fait le jeu des Indiens qui, à partir de rien, font quelque chose. Et elle ne savait naturellement pas travailler. Elle a dû attendre l'âge de 5 ans avant de travailler. Et elle raconte ça en disant qu'elle a commencé d'abord par égrener le maïs, et puis elle en a donné aux poules et aux dindons, elle leur donnait de l'eau, c'était son petit travail, et elle va apprendre à cuire les haricots, à cuire le maïs, ensuite à cuire les tortillas, et qu'elle va apprendre à attiser le feu. Ça, c'est son premier petit boulot de petite fille, et il y aura déjà une deuxième qui arrive derrière, elle s'appelle Rosa, et c'est sa petite sœur. Alors elle la portait comme si c'était sa propre fille, elle s'en occupe comme si c'était son enfant, et elle faisait attention, elle devait changer ses couches qui étaient sales, elle les nettoyait, elle la surveillait quand elle joue. Et puis, elle savait surtout très bien que quand les enfants tombent, eh bien, ils vont perdre leur âme. Et ses parents l'auraient puni extrêmement durement si elle l'avait laissé tomber à quelque part. Donc, elle fait très, très attention à cette âme si fragile qui pourrait s'échapper de sa petite sœur.
De faire connaissance de cette
de cette dame, de Maria.
On reste encore quelques minutes dans son enfance.
Ah oui, parce que quand elle avait 6 ans, elle se rappelle très bien qu'elle avait commencé à conserver ses cheveux. Alors ça, c'est très indien aussi, parce que elle est vieille, elle a 4 petits sacs qu'elle cache dans sa hutte avec des cheveux qu'elle garde vraiment de côté comme ça.
Pourquoi elle garde ses...
Parce qu'elle serait très triste si l'âme ne pouvait pas les retrouver lorsqu'elle va mourir.
C'est vrai qu'on sait que les Mexicains lorsqu'ils sont enterrés, leurs ongles, leurs cheveux
sont conservés, mm-hmm. et on les met en général. Alors elle disait que bien sûr que quand on va se baigner à la rivière, on en perd quelques-uns, mais il faut surtout les garder, parce que l'âme devra les rechercher partout sur les rives du ciel lorsqu'elle va mourir. Et si ça lui arrivait, si ses cheveux n'étaient pas conservés, mais enfin, ce qu'elle espère surtout, c'est qu'on les mette dans son cercueil après sa mort, hein. Donc là, c'est son moment de déclaration: à partir de 6 ans, je garde tous mes cheveux. Et puis elle se rappelle aussi qu'elle n'a pas connu l'époque de l'école, parce qu'elle n'a jamais pu y aller, parce qu'en fait les filles n'allaient pas à l'école, il y avait que les garçons qui pouvaient y aller. Mmh. Elle va à 12 ans, elle va apprendre à tisser toute seule. Elle était déjà grande, hein, c'est déjà carrément une petite adulte. Elle va commencer à travailler exactement comme le faisait sa maman. Elle a appris à tisser en regardant simplement ce que faisait sa maman. L'ouvrage est juste à côté. Et puis, on la bouscule un peu, on lui demande toujours de se lever assez tôt. Et quand elle avait fini de faire ses tortillas, quand elle avait fini de balayer la maison, elle allait chercher de l'eau. Puis alors là, elle se met à tisser. Et puis, elle était très contente d'apprendre ça. Elle adorait ça, et c'est la plus grande tisseuse de Magdalena, s'il ne faut pas l'oublier. Elle va apprendre pratiquement à tout le monde à le faire, et elle regardait le métier de sa mère, et puis des fois elle le faisait en cachette. Alors sa mère était très fâchée quand elle voyait que quelqu'un avait travaillé sur son propre métier. Mais finalement, elle va apprendre des choses simples. Elle va commencer par un petit corsage blanc, et puis ensuite elle fera une serviette qui est très réussie, et puis elle a fait son premier jupon, parce qu'avant il faut commencer par des choses simples en coton, et puis petit à petit on apprendra le brocart, et puis à décorer ces fabuleuses blouses comme le font les femmes de la région. Et tout à coup, là, juste après 12 ans, on lui a dit: bah écoute, Maria, il va falloir te marier. Ah, d'un seul coup, ça vous tombe dessus.
À quel âge?
À 12 ans, il faudra vouloir aussi un mari.
Les femmes se mariaient tôt à cette époque?
Ben oui, et on continue à le faire. Alors, elle s'est mariée très rapidement à cause de son père, et ses parents l'ont carrément vendue. C'est comme ça que ça se passe.
Quelle horreur.
Et vendue, c'était pour se marier. Alors, c'est assez curieux, parce que Elle voulait pas se marier, bien sûr. Elle a commencé à pleurer. Et puis elle disait surtout: alors mon bonhomme était déjà tellement âgé, il devait avoir au moins 20 ans. Et elle en avait à peine 13, 14 ou 15. Enfin, elle était encore toute petite. Et quand elle dit vendue, parce qu'en fait, on demande la main 4 fois. Alors la première fois et la deuxième fois, il y a seulement les hommes qui passent d'une hutte à l'autre. Et puis la troisième fois, il y a aussi les femmes qui arrivent. Et à la quatrième visite, on arrive avec une carafe d'eau de vie, bien sûr, de l'alcool toujours, un peu de maïs et un peu de viande. on va manger ça ensemble. Et on conclut l'affaire justement lors de la quatrième visite. Et à partir de là, eh bien, il faut simplement se préparer aux soins du mariage. Et le mariage, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'il faut surtout que personne ne se fâche dans l'histoire. Lorsqu'on pratique, disons, la cérémonie du mariage, on la fait un peu comme chez nous, mais avec le simple fait de dire qu'il faut éviter la violence et éviter l'alcool. Mais ils savent très bien que dans ces moments-là, il y a naturellement énormément d'habitudes qui se prennent. Quand on aura les charges et son mari en aura tout plein, il deviendra même maire du village. Et en l'occurrence, elle dit simplement, bah, moi, on m'a vendu pour un peu d'eau de vie, finalement. Et pendant 10 ans, ils ont vécu dans la maison des parents. Ça, c'est typiquement indigène. Et ils n'ont jamais été vivre chez l'oncle, qui était donc le seul qui survivait du côté du mari. Et Avril, comme il apportait du bois, il s'occupait des parents, il leur donnait à manger. Et plus tard, il y a la sœur, Rosa, qui s'est mariée aussi. Et son mari était alors très, très pénible. Lui, il ne voulait rien faire du tout. Il n'allait jamais chercher de bois. Et finalement, à la fin de la journée, ils s'étaient un peu mis ensemble, les deux hommes. Donc, ils étaient un tout petit peu... ils n'avaient pas vraiment envie de travailler. Et elle a dû un peu le secouer, c'est-à-dire que finalement, un jour, Avril, son mari, a dit « Bon, ben, j'en ai marre d'être là, je pars. » Et ça, c'est très indien. Quand ils disent « je pars », c'est qu'ils vont à la plantation. Alors son mari est parti travailler, et elle est restée là pendant plusieurs mois toute seule. Il est parti carrément pendant 6 mois.
Parce que les plantations n'étaient pas...
Ah ben non, quand on dit aller aux plantations, c'est aller dans les terres tropicales, c'est-à-dire quitter les terres d'altitude pour aller travailler chez les Blancs ou chez les Métis. Et elle est restée avec ses parents, et c'est là qu'elle a commencé vraiment à apprendre à tisser pour de bon, et elle n'avait rien d'autre à faire, elle n'a plus besoin de s'occuper de son mari. Alors dès le matin, dès que le soleil pointait, elle commençait à apprendre son travail, et elle a appris à broder. Et alors ce qui est très beau, c'est qu'elle dit que la première chose qu'elle a voulu faire, c'était faire un cadeau à la Vierge. Elle revient toujours à cette Vierge, et dès qu'elle a eu ses mains assez agiles, elle a été voir la Vierge et lui demandait de lui apprendre à travailler. Elle lui parlait véritablement, et elle a même raconté des poèmes absolument incroyables, comme ça, de manière orale, en disant « Écoute, Sainte Vierge, donne-moi ton enseignement, mêle-moi dans mon cœur, mets dans ma main ta navette, ton métier à tisser, pour que j'apprenne, pour que je reçoive ton enseignement, pour que je sois ta relève, femme sacrée en fleurs, sainte déesse fleurie, là je lis carrément, voilà ma chair, voilà mon corps. » Elle s'offre complètement à l'enseignement de la Vierge, cette Vierge qui un jour était arrivée comme ça dans son village, et s'était collée avec de la cire sur un arbre. Elle avait vécu sur un arbre avec un métier à tisser. C'est exactement l'image précolombienne de cette femme qui est au pied d'un arbre, avec vous savez, le métier qui est accroché à l'arbre. Et c'est ainsi que la Vierge est arrivée et a vécu chez eux, là, juste à côté de l'église qu'on lui avait construite tout à l'heure.
Parlez-moi un petit peu de son mari.
Ah ben là, son mari, il va monter petit à petit en charge. Quand ce qu'on dit en charge, c'est qu'il va payer ses charges et monter dans l'échelon social, effectivement. Alors, je crois qu'ils ont attendu à peu près 8 ans de mariage avant qu'il reçoive sa première charge, qui est celle de majordome. Le mayordomo, c'est celui qui s'occupe de la Vierge de Magdalenas, justement. Et son travail, son mari, ce sera pendant toute une année de prendre soin de l'église. Il devra la balayer, il devra nettoyer le sol, il va devoir s'occuper des cierges, il va changer les aiguilles de pain qu'on met sur le sol. Ah ben il est devenu un grand travailleur, parce que les charges vont le motiver. Il va petit à petit monter dans la société jusqu'au rôle suprême qui est celui de maire du village. Il va s'occuper des fleurs de l'église. Alors, la femme, elle ne travaille pas, mais ils disent toujours qu'ils font la charge ensemble, ils sont toujours deux. Hein. Alors elle ne s'occupe pas de l'église en soi, mais elle doit offrir de l'encens à la Vierge de Magdalena quand on sort pour les grandes processions, au moment des grandes fêtes. Et puis elle nous parle de ces différentes charges, il y aura celle de régisseur, toutes les charges qui font qu'on monte dans la société du plan civil ou sur le plan civil ou sur le plan religieux. Et puis elle raconte aussi comment on a appris dans le village à refaire ou à faire vraiment de très beaux huipils. Il faut savoir que ce sont les plus beaux huipils de toute la région des Chiapas. Et elle dit que c'était sa sœur aînée, la sœur aînée de sa mère, qui s'appelait Antonia, qui était une femme célibataire, ce qui est très très rare. En fait, on n'a pas le droit de ne pas être marié hein, quand on est indien. On est un peu marginaux lorsqu'on n'est pas marié. Et elle vivait dans un tout petit hameau du village et elle a appris à faire le premier huipil. Et elle dit qu'il lui avait fallu beaucoup beaucoup de temps pour copier le premier huipil de la Vierge. Alors, on ne sait pas exactement où se trouvait l'original, mais c'est un vieux chiffon très sale, très vieux, déchiré, complètement fichu. Et elle disait que c'était le travail des ancêtres. Elle a raison, c'était des gens d'avant, il y a un ou deux siècles, qui eux savaient parfaitement faire ces fameux brochages. Et elle va apprendre à tisser toute seule, elle va regarder comment c'est fait, elle va l'enseigner ensuite à toute sa famille, aux gens qu'elle connaissait. Et toutes les femmes intelligentes, comme elle dit, vont apprendre à tisser ces huipils. Et petit à petit, elle va devenir aussi une enseignante extraordinaire. Et elle va suivre les charges de son mari. Alors bon, il y a des charges extraordinaires aussi, parce que quand on sait par exemple que tout en fin de parcours, on peut devenir alfares, ça c'est déjà une charge très importante, mais ensuite on va le présenter, son mari, tout à la fin de son parcours comme alcalde. L'alcalde c'est le maire. Hein. Alors ils vivent à ce moment-là au centre du village, ils sont obligés d'être au centre, près de l'église, près de la maison de commune, et la femme de l'alcalde, elle doit brûler de l'encens devant l'enfant Jésus, donc il y a toujours des charges et des choses très particulières, et elle doit aller 3 fois par jour à l'église, elle se rappelle bien qu'elle y allait le matin, le midi, le soir. Et lorsqu'ils ont fini leur charge d'alcalde, elle dit toujours que elle l'appelle son bonhomme, hein, mon bonhomme. Ça, je trouve très joli aussi. Il a commencé le titre de principal, ça a duré une bonne douzaine d'années, et jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la charge de l'alférez de la Très Sainte Vierge. C'est ainsi qu'ils ont terminé leur travail, ils ont leur don au village.
Hein. Qui décidait justement de
Alors,
ces charges?
Ce sont les autorités, ce sont les ancêtres eux-mêmes qui vous désignent, où vous pouvez vous-même donner votre candidature, et d'année en année, attendre pendant une année ou deux.
Et ça,
parfois.
C'est accepté par tous les autres habitants du village.
Un consensus. Hein. Mmh. Et à partir de là, on vous donne la charge et vous montez. Mais vous payez énormément. Vous devez emprunter à 10, 20, 30, 40 personnes pour arriver à payer la nourriture, les pétards, tout ce qui va faire la fête et en même temps le travail de l'année. Et puis, ils ont reçu la charge de majordome, ils ont reçu la charge de mayor, ils ont été régisseurs, assistants. Son mari a été capitaine, Alfarès. Et puis, ils ont fini justement avec alcalde, donc maire, et puis principal. Et tout ça, ils l'ont fait eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle avait cette notion de dire on s'est accroché, on a tenu le coup en tant que couple. Et ben, il dit ben, ce sacré bonhomme, il était drôlement plus impressionnant à cet âge-là que quand il était jeune. Hein. Là, tout à coup, on voit qu'elle lui a mis une sorte d'aura et que c'est devenu un mec bien et qu'il a vraiment réussi dans sa vie. Et alors, ce qu'elle aime beaucoup chez lui, c'est qu'elle dit jamais. Il ne m'a repoussé. Là, on pense à la petite natte, à l'endroit dans la hutte. Jamais il m'a mis de côté, même si je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. On ne sait pas comment il a fait. Hein.
C'est justement la question que j'allais vous poser.
Ils ont des herbes, ils ont des possibilités d'avortement. Ils se débrouillent très bien, les indigènes. Et ils n'ont pas tellement de questions religieuses par rapport à ça. Donc, ils se débrouillent vraiment comme ils l'entendent. Mmh. Et là, elle dit justement que jamais il a cherché une autre femme, malgré le fait qu'elle ne lui ait pas donné d'enfant. Alors, à la fin de leur vie pratiquement, ils avaient un petit filleul qui s'appelait Felipe et il est venu vivre chez eux parce que sa mère était partie avec un autre homme et puis qu'elle est morte après. Et finalement, il avait seulement 3 ans quand il est arrivé dans la maison. Ils l'ont accueilli et maintenant il est grand parce que bon, il faudra déjà qu'il cherche une femme. Voilà que le mouvement recommence. On est déjà à la fin d'un cycle. Et bien sûr, elle sait qu'il ne va pas rester avec eux parce qu'en principe, vous vous rappelez qu'on reste facilement dans la famille des parents. Bon, et puis mon bonhomme, de toute façon, il boit terriblement et ce serait triste qu'il ne reste personne quand je vais mourir, surtout parce que je n'ai pas d'enfant. Et là, elle a un petit moment de plainte comme ça, mais sans plus, parce qu'elle dit « je suis déjà vieille, hein, je vais bientôt mourir » et elle sait qu'on doit tous mourir et qu'on ne peut pas rester ici pour toujours. On a l'impression d'entendre des poèmes aztèques, hein, ce côté un peu nostalgique. Et elle dit « nous allons même traverser le lac un jour ». Mais elle sait très bien que, et je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'il y a un chien qui va nous emmener de l'autre côté. Elle sait très bien que ce chien vous porte sur son dos, parce que vous n'êtes plus qu'une âme, hein, en fait. Et si on lui donne à manger toute sa vie à ce chien qui est là à côté de la hutte, ben c'est parce qu'on sait très bien qu'il ne mangera pas notre âme. Hein. Il faut protéger les animaux. Et elle leur donne toujours... On la voit, elle glisse de temps en temps une petite tortilla là, au chien qui est dehors. Et elle dit qu'il y a un chien noir qui emmène les gens de Chamula et que c'est un chien blanc qui s'occupe des hommes blancs qui vivent à San Cristobal. Mais pour nous, les vrais Indiens de Magdalena, c'est un chien couleur fauve qui nous emporte. Et la raison, les précolombiens croyaient toujours que c'était un chien jaune qui nous faisait traverser le Stick, ce lac qu'elle appelle. Et puis elle va voir son père, elle va voir sa mère au cimetière chaque année, au moment de la Toussaint. Elle revient et puis elle leur offre des tortillas, elle leur offre des cierges, un peu comme aux chiens. Les ancêtres aussi ont de la mémoire. I get so lost. Sometimes days pass and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car. But whichever way
at the sky, so soon we'll burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes.
Moi, Maria, eh bien, j'ai tissé 3 huipiles, j'ai tissé 3 corsages, j'ai fait 3 chemises d'homme, j'ai fait 3 mouchoirs d'alférez, 3 jupons. Tout ce que mon cœur a voulu faire, c'est beau ça de dire, tout ce que mon cœur a vraiment voulu faire. Elle fait un peu l'apologie de sa vie, elle dit ces chemises et ces choses-là, je ne les ai pas vendues, non, je les ai juste prêtées. Parce que tous les gens ne savent pas tisser, et quand ils n'ont pas leurs propres habits de cérémonie là, pour les fameuses charges, ben ils viennent me les emprunter. Alors on voit ces allées et venues de gens qui savent très bien qu'elle a des habits superbes, qu'elle a les plus beaux huipiles, parce qu'elles savent bien que si elles savent pas tisser aussi bien qu'elle, il vaut mieux aller lui emprunter ce qu'il faut, lui donner de l'alcool, lui donner des poules, etc. Et c'était ça sa charge, à elle. Hein. C'était d'avoir tissé beaucoup de chemises, d'avoir fait beaucoup de huipiles, des chemises pour son bonhomme, des foulards, des ceintures. Bon, il y avait tout, et elle avait l'impression qu'elle avait vraiment accompli sa charge. Puis un jour, elle se rappelle très bien quand ils avaient une charge importante, tout à coup elle est tombée malade, gravement malade, et ils étaient assistants d'ailleurs. Et elle savait que sa vie n'était pas terminée, mais que sa charge surtout n'était pas finie, que l'année n'était pas terminée non plus, et elle pensait qu'elle allait mourir, et ça a été un instant très dur. Pendant un an, elle n'a plus pu marcher. Et elle croyait qu'elle aurait fini de vivre, et elle a demandé à un guérisseur de venir depuis San Andrés. Oh, c'est un très bon médecin qui est venu les voir. Alors il a installé ses cierges, il a sacrifié une poule, il a offert plusieurs litres d'eau de vie, et puis ensuite on lui a fait prendre un bain de vapeur. Vous savez, tous les Indiens ont à côté de la hutte une espèce de petite cloche en terre comme ça, où ils s'enferment avec des herbes et puis des cailloux bien chauds, et puis on fait de la vapeur. Et quand ils ont eu fini de la baigner, ils sont partis chercher des herbes avec des épines. Avec ces épines, ils l'ont piqué aux jambes. Elle s'est sentie beaucoup mieux.
Elle venait d'où sa maladie ? Parce qu'on sait que malade, c'est pas normal.
Ah non, être malade, c'est avoir accompli une faute, enfin avoir créé une espèce de... Ça, on l'avait déjà vu.
Or, elle rendait service à tout le monde.
Et oui,
elle
a simplement payé, ensuite elle a mangé, elle a repris quelques haricots, des tortillas, elle a payé aussi le médecin, en lui offrant toutes sortes de choses, elle lui a offert des œufs, des tortillas grillées, un peu de puzzle pour son chemin. C'était suffisant pour lui, hein, parce que bon, maintenant elle dit, oh, il vit plus, hein, il est mort. Mais c'est le premier médecin que j'ai rencontré, et moi je suis resté vivante, lui il est mort. Donc elle a sûrement réussi à expier ses fautes simplement en continuant à travailler de façon incroyable. Et quand elle parlait des chiens tout à l'heure, vous rappelez, pour la mort, elle disait aussi qu'elle allait systématiquement au cimetière le 1er novembre pour la Toussaint. Tous les Tchamoulas font cela, ils se retrouvent sur la tombe, ils apportent ces fameux œillets d'Inde, de la nourriture, des tortillas, enfin des cierges. Et elle disait qu'elle en allumait beaucoup pour ses parents, parce qu'il y avait aussi de nombreuses âmes, donc il y avait de nombreuses tombes. Et elle disait qu'elle était venue pour son père, bien sûr, pour sa mère, mais qu'il y avait son frère aîné, qu'il y avait sa tante, qu'il y avait son oncle, et puis qu'elle faisait de la semoule de maïs, qu'elle préparait des épis, et qu'elle allait chercher des herbes, et que tout cela, elle les préparait, elle les mettait là comme une sorte d'offrande pour qu'ils puissent venir se nourrir. Elle leur préparait une véritable fête. Elle a un sens du devoir, une façon d'offrir les choses qui est très indienne. C'est un peu le résumé, mais c'est sa vision à elle. On a déjà essayé d'étudier lors de nos derniers entretiens la façon de fonctionner d'un indien, se mettre un peu dans la tête de ces gens-là. Mais quand on voit par exemple sa façon de créer la fête, elle donnait des cierges aussi pour la grande fête de la Vierge, bien sûr, sa fameuse Vierge de Magdalenas, parce qu'elle les offrait pour ses ancêtres, parce qu'elle sait très bien qu'ils souffrent beaucoup.
Est-ce que toutes les femmes fonctionnaient comme elle ?
Ah, ben disons qu'elle, c'est un exemple.
Voilà,
On la prend comme exemple, mais toutes les femmes, en fait, fonctionnent comme cela, bien sûr. De façon peut-être plus modeste, ils ont peut-être moins de charges, moins de possibilités, un vécu moins long aussi que le sien, qui est extraordinaire. Elle a une mémoire extraordinaire. Mais elle sait très bien que tous ceux qui sont déjà dans l'au-delà, si elle est encore vivante, eh bien, ils sont un peu seuls là-bas. Et je trouve assez extraordinaire extraordinaire. Elle raconte, par exemple, quand parfois, on la voit dans sa hutte, hein. Il faut remettre un peu le paysage en place. Hein. Il y a quelques pins à l'horizon, ces terres un peu rouges, ce gazon qui est encore brouté par quelques moutons, et puis cette façon de devoir systématiquement aller chercher le bois, sortir, chercher du travail à l'extérieur. Tout ce qu'on vient de raconter, c'est cette vie interne, c'est la vie du village lui-même. Mais elle dit que quand elle s'endort, parfois, même à son âge, elle rêve encore de son père et de sa mère. Et puis elle a l'impression, dans ces moments-là, que ses parents l'appellent. Alors là, il y a vraiment cette porte étrange entre la réalité et l'au-delà. Et puis, elle dit carrément, est-ce que tu es là? Est-ce que... Viens, ma fille. Viens, ma petite fille. Et pourtant, c'est une femme très âgée qui nous parle. Hein. Et puis, elle leur dit, non, au revoir.
Pas encore.
Et dans le revoir, je trouve génial, c'est le revoir indien. Hein, c'est, laissons ça pour plus tard. Et elle sait qu'ils sont morts quand elle rêve d'eux. Elle sait que si par hasard, en rêvant... Et elle partait comme cela, elle les suivait dans son rêve. Si elle partait avec eux, elle serait morte elle aussi. Même en rêve, elle s'en rend compte qu'elle peut mourir. Ah,
mais alors, une chose que je ne comprends pas, c'est les rêves. Pour les Mexicains, les rêves, c'est la réalité.
C'est la même chose.
Oui.
Et c'est là qu'elle arrive à répondre dans son rêve. Non, je ne veux pas y aller. Mmh. Je suis tellement habituée à ne pas être morte. Ça, c'est sa vraie conclusion. Mmh. Et là, on comprend qu'elle a vécu à la fois dans ces légendes de la Vierge qui a été créée à un moment donné. Tout devient complètement mythique. Et j'ai l'impression, des fois, en écoutant cette femme, que je relis des poèmes qui ont été écrits véritablement par des Indiens, mais là, au 15 ou 16e siècle, avec des hiéroglyphes, avec ces glyphes, avec ces peintures de couleurs, on a l'impression qu'on réécoute toutes les légendes aztèques racontées 400 ans plus tard, presque avec les mêmes mots, même si la Vierge n'est pas forcément la déesse de la Terre, mais en tout cas, quand elle dit « je suis tellement habituée à ne pas être morte », elle voit le lac, elle connaît son chien, mais elle est encore de notre côté, elle sait que le rêve, c'est une autre réalité, et que la mort, ça n'est que la suite du rêve.
Et on se retrouve
dimanche prochain, en rêvant ou pas.
Dimanche.